Bienvenidos al podcast Cocina tu barrio.
Cuisine ton quartier.
Cuisine au teu bairro.
Cuisine nan quartier avec nous.
Et tabakhaye.
Cuisine quartier.
Cucina nel tuo quartiere.
Et matbakhna.
Cuisine ton quartier. Ici Annie Roy de Atsa quand l'art passe à l'action. Je suis allée dans cet arrondissement montréalais à la rencontre des personnes réfugiées et immigrantes, de ceux et celles qui les aident dans leur intégration et des artistes qui s'en inspirent, pour vous offrir ce grand parcours balado « Cuisine ton quartier ». Ouvrez votre cœur et vos oreilles et bonne rencontre!
Si on était capable de marcher ensemble, on apprendrait vraiment à mieux se connaître. Je trouve que c'est une métaphore du rapprochement interculturel et intergénérationnel qui peut être très intéressante puis transférable dans la vie quotidienne. Le jeu, la marche, la possibilité de se rencontrer puis de se reconnaître à tous les matins, de saluer tout simplement. C'est très important, même les questions très concrètes de testament, de qu'est-ce qu'on souhaite. Tout ça, c'est vraiment, on pousse ça le plus tard possible puis... Moi, je pense que c'est important de ne pas léguer aux proches puis à nos héritiers ces litiges-là, après, qui peuvent traîner des années, surtout autour des biens matériaux, mais aussi finalement des souhaits des personnes sur comment ils veulent que ça se passe, la cérémonie, etc., etc. Bonjour à tous et à toutes, je suis Liliane Rachedi et je vous souhaite la bienvenue à la balado « Cuisine ton quartier ». Moi, je suis donc Liliane, je suis française d'origine algérienne, donc née en France. Je suis arrivée au Québec il y a à peu près 25 ans. J'ai fait mes études au Québec en travail social et je suis mère de famille de deux enfants et actuellement professeure à l'école de travail social à l'UQAM. Se questionner sur ce sujet-là du deuil et de la mort pour les immigrants en contexte migratoire, ça renvoie toujours à l'histoire personnelle des chercheurs. Hein. On ne choisit pas un sujet comme ça de manière hasardeuse. En général, on a tout un historique autour des sujets, des objets de recherche qu'on développe. Donc, me concernant, moi, j'ai vécu un propre deuil une année avant d'arriver au Québec. Ma mère est décédée en France. Une année plus tard, je suis arrivée ici au Canada. Et j'ai vécu donc le deuil à distance, le décès de mon papa en 2005, 10 ans plus tard, en étant donc au Canada, mais j'ai eu la chance de pouvoir retourner assez rapidement. J'avais les moyens de me payer un billet d'avion pour retourner en France, assister aux funérailles et à l'exposition du corps. Tout ça pour dire que j'ai vraiment réalisé que pour les immigrants, ça devait être une question récurrente, la question des deuils à distance, donc de perdre un être cher à l'extérieur du pays, à l'extérieur du Canada. Puis on sait aujourd'hui qu'avec les migrations, c'est des diasporas hein, qu'on a à faire. C'est plus des migrations pays d'origine, pays d'accueil. Il y a vraiment des familles qui sont réparties un peu partout dans le monde. Donc les deuils et les décès se produisent ici et là. Et c'est très difficile pour les immigrants de se déplacer pour aller assister aux funérailles, partager la souffrance avec les gens qu'on aime, etc., etc. C'est comme ça que l'idée m'est venue de travailler sur la question de la mort et du deuil en contexte migratoire, plus spécifique en contexte québécois. Comme je l'ai dit, moi je suis vraiment dans la discipline du travail social. On a cette préoccupation d'appliquer les connaissances. Il faut que ce soit utile. Hein. Il ne suffit pas de faire des entrevues avec les gens, puis publier des rapports et des articles scientifiques. Il faut vraiment que c'est un impact d'abord chez les premiers concernés, ceux qui ont eu la générosité de nous partager des souffrances, des deuils, des choses difficiles, hein, gratuitement, généreusement. Ceux-là, ce sont les premiers concernés et c'est à eux que doit bénéficier en premier la recherche, ne serait-ce qu'en racontant la mort du défunt. C'est des fois la première occasion qu'ils ont eue de raconter cette histoire-là, avec ses tragédies, ses souffrances, ses douleurs. Puis ensuite, nous, on a toujours comme préoccupation, comme je le disais, ultimement, d'outiller les professionnels qui vont accompagner ces personnes-là. Les connaissances qu'on va produire, par exemple, pour ce qui concerne la mort en contexte migratoire, l'élément qui a été significatif pour moi, qui a été majeur, c'est vraiment combien pour les immigrants, la question des rituels funéraires était fondamentale, ils y tiennent. Ils peuvent survivre à l'idée qu'ils ne sont pas présents, qu'ils sont loin, que la mort a été subite, mais ils vont tenir à certains rituels funéraires et c'est ces rituels-là auxquels ils vont être rattachés, qui vont être importants pour eux, puis qu'ils veulent absolument pratiquer dans la société d'accueil, parce qu'on a vraiment une situation où finalement les deuils vont se dérouler de manière simultanée dans le pays d'origine et ailleurs où la personne est décédée. Par exemple, on va faire une messe à Montréal, au Québec, tandis que dans le pays où la personne est décédée, on va faire également une messe. Donc, c'est vraiment un rituel simultané qui va vraiment aider les gens à passer à travers la souffrance. Comme travailleuse sociale, si moi je sais ça, ben je vais référer la personne en disant, ben écoutez, peut-être qu'il y aurait moyen de faire une cérémonie, quelque chose de simultané ou peut-être une cérémonie différée. Peut-être que cette année, vous ne pouvez pas aller voir le défunt et son corps, mais peut-être dans un an, dans deux ans, ça se produit beaucoup hein, pour les gens qui sont très loin. Je pense aux personnes de l'Afrique noire, du Sénégal, qui vont différer les rituels. Donc, un an après la décès du papa, de la maman, ils vont aller fermer le rituel, faire aboutir ce drame-là en étant sur place, près du lieu de sépulture là, de la personne qui est concernée. Et en termes d'accompagnement aussi pour les professionnels, que ce soit les travailleurs sociaux ou les psychologues, même les bénévoles, il y en a beaucoup hein, qui accompagnent ces personnes-là qui sont endeuillées, ben, c'est de dire qu'en fait, la première chose, c'est d'autoriser le récit autour du deuil et de la perte de l'être cher, parce qu'on a été très... On est dans une société occidentale qui dit bah, pour qu'un deuil soit terminé, il ne faut plus que la personne pleure, il faut que tout soit fermé. Hein. C'est mon Bourquette qui avait fait des étapes. Donc un deuil très étapiste, le choc, le déni, la crise de l'âme. Finalement, on n'est pas du tout dans ce parcours-là avec les immigrants. Ils ont bien montré comment ça peut être très circulaire. Puis comment, même si je continue à pleurer 10 ans plus tard, ça ne veut pas dire que j'ai un deuil pathologique pour autant. Donc de transmettre ces connaissances-là aux travailleurs sociaux, de leur dire... La madame, ce n'est pas parce qu'elle pleure alors que le deuil s'est produit 15 ans plus tard qu'elle est en train de vivre un deuil pathologique, mais c'est circulaire, il y a d'autres façons de vivre le deuil, il y a d'autres pratiques, etc. Donc d'être ouvert à une diversité de processus de deuil, ça peut vraiment beaucoup, beaucoup aider dans un accompagnement qui soit vraiment au plus proche de ce que les gens vivent et ressentent réellement. D'abord, très concrètement, d'écouter ces récits, ces tragédies, et que ce soit à l'échelle individuelle ou à l'échelle d'une communauté, d'un pays, hein, parce qu'on a aussi interviewé des gens qui ont vécu auprès des compatriotes, de leurs compatriotes, des traversées donc, des frontières avec, vous le savez, en Europe, dans la Méditerranée, les morts, là, c'est vraiment un cimetière ouvert, là, la Méditerranée. Donc ces gens-là nous disent, ce que moi j'ai appris, c'est que le soutien émotif, l'écoute, ne serait-ce que l'écoute, c'est fondamental et c'est éminemment réparateur. Vraiment, le simple fait d'écouter, que ce soit dans le contexte d'une entrevue de recherche, mais aussi d'une amie qui vient de perdre quelqu'un, c'est très bénéfique pour la personne dans son processus de deuil parce qu'il y a vraiment une reconnaissance. Puis ça, moi, c'est vraiment ce que j'ai senti en écoutant les gens partager raconter leur mort. C'est vraiment, ni plus ni moins, c'est ça, c'est cette volonté d'être entendu, d'être reconnu dans ce qu'ils ont vécu, dans la souffrance, dans l'injustice, dans toutes sortes d'éléments. Là. Ça légitimise, si vous voulez, un peu ce qu'ils ont vécu, puis la tragédie. Donc ça, moi, c'est vraiment venu me chercher en me disant, bah, même en intervention, c'est important de prêter une oreille attentive, empathique par rapport à ce que les gens nous disent. Puis en termes d'anecdotes, en lien avec l'hécatombe là, qu'on voit en Europe, mais qui s'en vient, vous le savez, aussi au Canada, avec les nouveaux couloirs hein, qui partent de l'Amérique latine, des États-Unis, puis qui s'en viennent ici à la colle, hein, le fameux chemin Roxham. Hein, donc c'est des gens qui portent ces histoires-là de morts qui sont... décédée pendant la traversée, qui est de plus en plus douloureuse, de plus en plus dangereuse aussi. Une madame qui disait, bah, en fait, moi j'ai réussi, j'ai immigré, j'ai obtenu mon statut de réfugié, j'ai été reconnue, maintenant je vis bien, Dieu merci, je suis en paix avec ma famille, je travaille, etc. J'apporte ma contribution au Canada. Mais finalement, elle disait qu'elle était toujours habitée, hantée par tous ces fantômes, ces gens qui sont décédés. Puis elle disait, finalement... Je ne gagne pas si tout le monde continue à mourir. On en a fait vraiment un titre de conférence parce que je ne gagne pas si les autres perdent aussi. Donc il y avait vraiment l'idée de collectiviser aussi toutes ces demandes, reconnaître ces demandes d'asile politique, de refuge au Canada en particulier, pour permettre à ces personnes qui traversent de se rendre jusqu'au bout finalement de l'aventure migratoire parce qu'on sait que ça n'aboutit pas toujours. Moi, ça m'a vraiment touché cet aspect autour de l'individu versus le groupe, la collectivité. Moi, j'ai réussi à sauver ma vie, mais finalement, c'est une bonne chose, mais j'aimerais ça que tout le monde en profite. Donc, un profond souci des autres, vraiment rare, surtout aujourd'hui, avec l'individualisme. Et puis, l'empathie qu'on peut offrir très gratuitement autour de l'écoute de ce que les gens ont vécu, puis sans pathologiser, puis dramatiser, puis dire que les gens sont des victimes, les pauvres, qu'ils souffrent. Et je sais que c'est classique de dire ça, mais les gens ont énormément de force. Ils ont développé vraiment des ressources face à l'adversité. C'est des gens qui arrivent avec un bagage riche de ressources et de forces, aussi de vision de la vie, de vision du monde, de vision des autres, qui malheureusement, en tout cas dans la vie actuelle au XXIe siècle, n'est pas nécessairement exploité, reconnu. Il pourrait être détourné à la faveur de la société d'accueil. On pourrait, à partir de témoignages de ces personnes-là, donner de l'espoir aux gens ici qui vivent des deuils, qui sont immigrants ou pas, parce que tout le monde dans le deuil, on est d'accord, immigrants ou pas, tout le monde souffre. C'est vraiment le dénominateur commun. Peut-être dire aussi qu'il y a toujours une personne significative dans un parcours de deuil, une personne qui a aidé, qui peut être la personne à la douane, qui peut être le professeur de francisation, qui peut être la travailleuse sociale que j'ai rencontrée au CLSC, qui peut être le bénévole à l'époque où vivait la maison Montbourquette encore, existait encore la maison Montbourquette à Outremont. Il y a vraiment un cumul d'autres deuils qui sont plus symboliques, qui sont plus matériels, qui sont liés au manque de reconnaissance des acquis quand on arrive ici, au choc culturel, au fait qu'on n'a plus les siens autour de soi, les gens qu'on aimait, sans qu'ils soient morts, mais ils sont plus présents. Ça peut être lié aussi au climat social, aux tensions qui existent actuellement au Québec, et autour de, je pense par exemple à l'islamophobie, comment les gens, les femmes qui portent un voile peuvent être regardées aujourd'hui dans le Québec de 2020. Donc il y a toutes ces déceptions-là, ces attentes, ces espoirs-là qui sont finalement avortés, qui, quand la mort réelle physique arrive, donc toutes ces deuils symboliques, ça va venir s'ajouter à la mort physique, la mort réelle de l'être cher. Puis c'est ce qui fait que le deuil est lourd. Le deuil est lourd parce que ce qui se passe aussi quand on perd un être cher, surtout à l'extérieur, c'est qu'on va complètement réviser le projet migratoire. On va se dire finalement, est-ce qu'on a bien fait d'être ici? Est-ce qu'on a fait un bon choix? À quoi ça sert la vie si finalement ceux qu'on aime meurent à l'extérieur, qu'on ne peut même pas aller les voir? Ici, je n'ai pas réussi à trouver un job qui correspond à mes diplômes, à mes qualifications. Ici, je suis toute seule, je suis isolée, je n'ai pas réussi à faire ma place. Ici, les gens me regardent bizarrement parce que j'ai une telle pratique religieuse. Donc, c'est tout ça qui va venir s'accumuler puis qui grossit. C'est vraiment le mot qui vient amplifier la douleur classique, standard qu'on a par rapport à un deuil physique, la perte d'un être cher. Pour aider une personne qui est endeuillée ou soi-même mieux vivre et passer à travers son propre deuil, la première chose, je dirais, c'est de trouver quelqu'un qui vous prête une oreille attentive, quelles que soient ses qualifications. Ça ne prend pas une batterie de compétences et tout un arsenal de diplômes pour juste écouter humainement, comme je l'ai dit, quelqu'un qui vient en deuil. Ensuite, de manière plus organisationnelle, au niveau des services, les maisons funéraires ici offrent, c'est très étonnant, des suivis de deuil, que ce soit à l'échelle individuelle ou à l'échelle d'un groupe. Je pense par exemple tout de suite, puis je ne veux pas faire de la pub nécessairement pour cette maison funéraire-là, mais la maison Alfred Dallaire sur Saint-Laurent offre des groupes de deuil, la possibilité d'un suivi groupe de deuil, suivi individuel également. Il y a d'autres maisons comme Magnus Poirier aussi qui peuvent soutenir, ils ont des personnes dédiées qui peuvent soutenir les personnes qui vivent la perte d'un être cher, mais quand ça se passe ici pour le coup, pour vraiment qu'il y ait eu une inhumation ou incinération ici au Québec, parce que c'est le couloir, on va fréquenter les maisons funéraires, on n'a pas le choix là pour magasiner la sépulture, etc. On a, nous, développé un site qui est logé à l'UQAM qui s'appelle le site MECMI. L'acronyme MECMI, ça veut dire « mort en contexte migratoire ». C'est très facile d'accès. Là, c'est www.mecmi.ucam.ca. Et dans ce site-là, il y a des ressources très concrètes autour du processus de deuil. Et il y a surtout un guide qu'on a vraiment créé à partir des témoignages des personnes, parce qu'on leur a demandé finalement à ces gens-là, qu'est-ce qui vous aurait aidé, qu'est-ce que vous auriez aimé avoir comme accompagnement, etc. Donc à partir de leurs témoignages, c'est comme un répertoire des ressources qui démarre du décès à l'hôpital, mettons, ou dans la maison, ce qui est de plus en plus rare, même si les gens, au départ, ils souhaitent mourir à la maison. Dans les faits, il y en a beaucoup plus qui décèdent à l'hôpital. Donc, à partir de ce moment-là, c'est quoi les ressources? Et qu'est-ce que je dois avoir comme papier, les certificats de décès, toutes les affaires administratives qu'on est loin d'imaginer quand on n'a pas vécu ça, jusque l'accompagnement comme tel, y compris un accompagnement qui serait plus religieux. Il y a également les ressources qui sont indiquées dans ce guide-là. Donc, il y a énormément de ressources qu'on peut retrouver sur le site MECMI, sur le site de l'Institut Sherpa aussi. Sherpa, c'est écrit S-H-E-R-P-A. Toutes nos recherches et nos productions sont logées sur ce site. Puis, on essaye vraiment de diversifier les formats. Alors, ça peut aller d'un guide, mais il y a aussi, on a fait des bulletins de connaissances qui sont vraiment une vulgarisation des savoirs et de connaissances autour de la mort et du deuil et des processus d'accompagnement. On a fait des vidéos, des clips qui durent vraiment pas longtemps, qui montrent des familles dans des situations de deuil. Et on voit, par exemple, une situation où la travailleuse sociale est démunie, est impuissante, ne sait pas trop comment accompagner cette famille-là. Puis l'idée, c'est à travers la capsule de montrer qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation-là. Puis personne n'est jamais complètement formé pour accompagner un être en souffrance, puis encore plus quand c'est quelqu'un qui est proche de nous. Nous, nos recherches nous ont vraiment amenés par hasard, hein, à cause de l'attentat à la mosquée de Québec, nous ont amenés à nous intéresser de manière circonstancielle à la question de la mort et du deuil pour les musulmans spécifiquement. Puis les gens qu'on a rencontrés, on a fait des groupes, on a rencontré des musulmans, des personnes qui se disent de confession musulmane. On les a vraiment interrogés sur leurs besoins autour des lieux de sépulture, parce que ce que l'attentat à la mosquée de Québec a montré, c'est qu'il y avait vraiment une carence en termes de lieux de sépulture musulmans, cimetières musulmans, carrés musulmans. Il y en a très peu au Québec. Et le désarroi de ces personnes face à ce vide-là les amenait finalement, puis c'est pas les seuls à opter pour peut-être un choix de rapatriement du corps, alors qu'eux autres, en mourant ici, en étant enterré ici, c'est un symbole d'intégration. Au sens propre, là, on intègre, on est désintégré, le corps n'existe plus, c'est de la désintégration par la terre. Donc, il y avait vraiment un symbole fort autour de « on appartient à la société québécoise, on veut mourir, on veut être dans cette terre-là ». Puis comment structurellement, il n'y a pas la place, c'est comment finalement il renonce à l'appartenance, à la citoyenneté québécoise, entre guillemets, parce que ici, il n'y a pas de place pour eux. Ça, j'ai trouvé ça vraiment excessivement questionnable. Et je crois que c'est vraiment des questions qu'il faut aller porter plus haut et continuer à porter collectivement pour que les gens puissent pratiquer leur rituel funéraire, quelles que soient les allégeances religieuses. Cet événement-là a vraiment cristallisé une problématique autour de sentiment d'appartenance à la société québécoise versus par dépit. Je vais devoir être rapatriée alors que moi, j'ai cet attachement pour la société d'accueil, surtout quand les enfants sont nés ici, aller se faire enterrer ailleurs, c'est pas très intéressant après pour aller se recueillir sur le lieu de sépulture pour les enfants après, là. Pour une fin puis une ouverture, mais je dirais c'est l'humanité et la tolérance, faire preuve d'humanité, de tolérance par rapport à la mort des autres, la mort des autres différents, donc être capable d'accueillir cette différence-là, parce que de toute façon, on va tous mourir. Si on a cette attention-là, cette ouverture-là, cette humanité-là par rapport à la mort des autres, puis quand je dis la mort des autres, c'est vraiment culture différente, religion différente, pour moi, ça serait vraiment le levier vers un vivre ensemble et un mourir ensemble plus harmonieux au Québec. L'objet symbolique que j'aimerais avoir si je devais quitter le Québec, puis je pense beaucoup aux réfugiés, c'est vraiment une photo en fait. Ce serait une photo, j'ai chez nous un arbre généalogique, mais aussi de ma famille ici. Là. Ça serait vraiment donc des traces visuelles pour me rappeler, pour me remémorer, pour pas oublier d'où je viens, qu'est-ce que j'ai fondé. Puis une production finalement qui n'est pas matérielle du tout, mais qui est du lien, du vivant. Je pense que c'est ça que j'emporterai en priorité, comme font les réfugiés. Les réfugiés, quand ils sauvent, ils embarquent l'album photo. Peut-être maintenant, avec la numérisation, etc., c'est plus la clé USB ou le téléphone, mais c'est des traces identitaires aussi. On pourrait élaborer effectivement sur le déni de la mort, qui est caractéristique effectivement des sociétés occidentales, sans religion. Ce que les autres cultures nous apprennent, en tout cas ce que moi j'apprends, je ne veux pas faire de généralisation. À la lumière des gens que j'ai rencontrés qui ont accepté de partager leur point de vue autour de, finalement, d'aspects plus religieux et culturels autour de la mort. Il y a un apprivoisement tout au long de la vie. Puis je dirais qu'il y a même, ça va vers une acceptation finalement qu'on va mourir un jour. Et puis les aînés, il faut les respecter, c'est les sages. Donc dans le cycle de la vie, il y a vraiment une sensibilité peut-être plus forte autour du fait que ça va s'arrêter un jour. Nous, on passe notre temps à courir, à marcher, à travailler, puis pour un peu se donner le tournis, dans le tourbillon de nos activités quotidiennes, on oublie qu'effectivement, on va mourir un jour. Puis moi, je pense qu'il faut le dire aux enfants, puis les enfants le savent. Très jeunes, ils ont des questions sur la finitude. « Maman, quand est-ce que tu vas mourir? Tu es plus âgé que papa, c'est toi qui vas mourir en premier. Ah, ça va être triste quand tu vas mourir, etc. » Alors, il ne s'agit pas non plus d'en faire une obsession, mais c'est important de reconnaître puis de dire aux enfants aussi que oui, un jour on va mourir, puisqu'apprennent les autres cultures, parce que j'interviens aussi bénévolement à la clinique ethnopsychiatrice de l'hôpital Jean Talon. Puis dans l'ethnopsychiatrie, ce qu'on nous montre, c'est que les gens ont beaucoup recours à un univers plus parallèle des fois dans l'épreuve du deuil, mais pas que ça. Il y a beaucoup d'éléments autour du cycle de la vie, la naissance, la grossesse, mais aussi le deuil et la mort. Puis ils vont vraiment aller mobiliser, interpeller cet univers-là pour se rappeler eux autres aussi qu'un jour ou l'autre, ils vont mourir. Puis c'est pas farfelu, c'est pas fou, c'est pas flayé. Ça a beaucoup de sens pour eux. Puis on n'a pas le droit de condamner ces croyances-là, ce qu'on considère nous comme étant des croyances, en étant un peu des choses superstitieuses, de les taxer de superstition. Je trouve que c'est prétentieux de la part de nous, les Occidentaux, comme si on avait le savoir absolu, qu'on connaissait tout sur l'après-mort, la fin de la vie, etc., etc. On a vraiment des leçons à apprendre en termes d'apprivoisement de la mort, en termes d'humilité aussi, ça frappe tout le monde. Il n'y a pas de justice, vraiment. Puis, en termes, encore une fois, de place que peuvent avoir les rituels funéraires incarnés par le religieux. Ce n'est pas parce que moi, je suis athée, je ne suis pas croyante, que ça n'a pas sa place dans la vie des personnes. Ça fait du sens pour elles. Qu'est-ce qui vient affecter ma vie au quotidien à ce point-là, qui fait que moi, je vais revendiquer que l'autre n'ait pas ses pratiques religieuses, qui sont enterrées dans le même cimetière que tout le monde, etc., etc. Je veux vraiment terminer sur un aspect parce que je me suis dit que j'allais le dire parce que c'est un ouvrage qui est fabuleux. C'est une philosophe qui a écrit ça. Elle s'appelle Vinciana Despre. Ça s'écrit D-E-S-P-R-E. Dans mes souvenirs, peut-être qu'il y a un S. C'est une Italienne, à ma connaissance. Elle a écrit un ouvrage qui s'appelle Au bonheur des morts. Elle est allée interviewer plein de gens qui avaient été un peu stigmatisés autour de témoignages qu'ils avaient livrés par rapport à des êtres chers qu'ils avaient perdus. Ah, ces gens-là disaient qu'ils continuaient à parler dans le sommeil à la personne qui était décédée. Ils avaient gardé des chaussures du papa qui était décédé, qu'ils avaient gardé des années. Puis elle allait vraiment aller explorer ça avec une casquette de chercheuse et de philosophe. Puis elle a montré finalement comment les gens qui perdaient des êtres chers, ces êtres chers-là donnaient des missions, en quelque sorte, aux vivants, aux survivants, à leurs proches, pour ultimement, puis je fais des gros détours, parce qu'elle le dit à travers quand même, c'est un petit ouvrage, mais il y a des nombreux, c'est quand même conséquent, pour ultimement tisser du lien social. Parce que finalement, les morts imaginent un futur pour les vivants. Ils veulent qu'on vive une société qui soit plus fondée sur le droit, plus égalitaire, plus tolérante, etc. Et toutes ces missions très personnelles qui paraissent très farfelues d'extérieur, cette personne-là a décidé de leur donner une crédibilité, une légitimité, puis elle en fait vraiment une thèse philosophique qui nous convainc à la fin que, oui, finalement, il y a vraiment des messages que les morts nous livrent par rapport à notre propre vie, ici individuellement, mais aussi collectivement. Merci à vous. Merci à Cuisine ton quartier. Merci de votre écoute. Puis je vous invite vraiment à continuer à écouter toutes les balados sur des sujets diversifiés. Puis je veux saluer aussi l'initiative et l'aide aussi des techniciens. Là. Donc une initiative que je trouve vraiment très, très pertinente, très originale, très innovante. Puis j'ai beaucoup d'espoir sur le public que ça va toucher. C'est probablement un public qu'on n'a pas l'habitude de toucher, nous, les universitaires. Puis aller rejoindre les gens là où ils sont, je trouve qu'il y a beaucoup de promesses et d'espoir dans cette approche-là, dans cette stratégie-là.
Merci encore de votre écoute. J'espère vous retrouver tout au long du parcours balado Je vous dis à la prochaine.